C'est parti. Donc 2015, nous y sommes, n'est-ce pas? Comme la plupart d'entre nous, je me suis posé quelques questions pour aborder la nouvelle année. Puis, par curiosité, j'ai fait un tour sur Internet. Et là, j'ai trouvé le top 5 des résolutions les plus populaires que j'ai transformées en top 6. Alors, je les prendrai à l'envers. En sixième position, nous voyons ceci. Faire des voyages. En cinquième position, améliorer son engagement social. Je donne des précisions là-bas. En quatrième position, améliorer ses finances. En troisième position, améliorer son bien-être mental. En deuxième position, nous avons amélioré son bien-être physique. Et en première position, celle que j'ai rajoutée moi, c'est améliorer son bien-être spirituel en étant réconcilié avec Dieu. Mon message en ce jour se porte donc sur des résolutions d'ordre spirituel. En ce début d'année, la meilleure résolution à prendre est celle de s'assurer d'être en Christ. C'est celle de s'assurer d'être sauvé en cette année. C'est celle de savoir que l'on ne passera pas son éternité en enfer, loin de Dieu et dans d'atroces souffrances. L'idée de ce message m'est venue par un constat simple. Plusieurs personnes autour de nous considèrent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils se considèrent comme ayant une bonne morale. Selon eux, ils sont intègres, ils ont une bonne éthique de vie. Et lorsque nous observons leur mode de vie, nous serons même tentés d'affirmer cela. Vous connaissez certainement quelques-uns d'entre eux, ce genre de personnes dans votre entourage, je dirais. Des personnes pour lesquelles on est tenté de dire, ils se comportent même mieux que certains chrétiens, ce qui ne devrait pas. D'autre part, j'ai à cœur de stimuler chacun de nous ce matin, afin que nous puissions nous questionner pour savoir où nous en sommes avec le Seigneur. C'est en fait un test. C'est un test pour savoir si nous sommes vraiment en Christ ou si nous sommes simplement des religieux. J'ai intitulé mon message « La bonté de Dieu méprisée ». La bonté de Dieu méprisée, avec comme texte d'appui Romains chapitre 2, les versets 1 à 5. Donc si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à ouvrir avec moi Romains chapitre 2 et nous lisons les versets 1 à 5. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté? De sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Lorsque nous parcourons le chapitre 1 de cet épître aux Romains, nous apprenons plusieurs choses. Nous y apprenons, des versets 18 à 32, que la colère de Dieu est manifestée par des jugements. Et Dieu manifeste sa colère dans ses jugements envers un monde païen et pécheur. Pourquoi ? Car le monde païen et pécheur duquel nous sommes issus, et qui nous entoure, est coupable d'avoir rejeté la révélation de Dieu. Ce rejet les a conduits dans l'idolâtrie et des vices horribles et inimaginables, dont quelques-uns sont même listés. Au travers de ce chapitre 1, l'apôtre Paul peint pour nous un tableau noir, un tableau saisissant et frappant du caractère et du système païen, impie, dans sa débauche et dans sa tendance à toujours aller vers le mal. On y voit aussi clairement démontré que la colère de Dieu est déjà en action dans le monde par la multitude des péchés d'hommes et de femmes qui ont été abandonnés par Dieu, livrés à eux-mêmes. Allez avec moi dans Romains chapitre 1, versets 24 à 25. Regardez à partir du verset 24. « Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Les hommes abandonnent Dieu et Dieu abandonne les hommes en les livrant au penchant de leur cœur. C'est la leçon principale que nous trouvons dans le chapitre 1 de cette épître aux Romains. À la fin de ce chapitre, on se rend vite compte qu'une question reste comme sans réponse. Et cette question est ceci. Qu'en est-il des personnes qui paraissent avoir une bonne morale, de bonnes mœurs, des personnes qui ne sont ni des assassins, ni des menteurs, ni des voleurs, ni des fornicateurs, ni des adultères? Qu'en est-il des personnes qui paraissent fondamentalement bonnes? Des personnes qui seraient en mesure de dire « Je suis d'accord avec la condamnation de la Bible envers le monde païen, car, voyez-vous, je suis différent de ce qu'ils sont eux. Je suis différent de ceux qui pratiquent ces choses-là. » Des personnes qui disent même, nous avons la certitude que Dieu ne nous condamnera pas de la même manière. Parlant ainsi, ces personnes se forgent un faux sentiment de sécurité. C'est exactement à cette catégorie de personnes que Paul s'adresse maintenant. Du chapitre 2, verset 1 au chapitre 3, verset 20, avec en pensée un but bien précis. Et ce but, nous le voyons dans le chapitre 3 au verset 19. Donc regardez Romains 3, 19. Juste à la fin de cet ensemble qui inculpe l'homme de bonne moralité, il dit ceci. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Donc regardez la suite pour comprendre le but. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà où il veut en venir. Revenez avec moi dans Romains 2, 1. J'ai intitulé mon premier point, « Tous sont coupables devant Dieu ». Verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses ». Dans certaines versions, ce verset commence par « c'est pourquoi », montrant simplement que le jugement de Dieu décrit dans Romains 1, 18 à 32 s'applique certes aux non-juifs, mais ce jugement s'applique également aux juifs religieux et propres justes, qui correspondent dans notre siècle à toute personne religieuse et propre juste qui mène une vie de façade. Dans un premier temps, Paul a fermement condamné les païens. Regardez dans Romains 18, versets 18 à 20, nous lisons « Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes qui possèdent la vérité tout en vivant dans l'iniquité. » Au verset 19, donne le pourquoi de cette condamnation. Il dit « Parce que ce qui peut se connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. » En d'autres termes, parce que les païens connaissent la vérité. Alors vous me direz, mais comment se fait-il que les païens connaissent la vérité? Regardez le verset 20. Nous lisons ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc la création à elle seule prêche l'évangile aux païens, raison pour laquelle Paul conclut au verset 20 qu'ils sont donc quoi ? Inexcusables. Même mot que nous retrouvons dans Romains 2:1, « Tu es donc inexcusable », s'adressant cette fois aux religieux et aux propres justes. Comment Paul va-t-il maintenant démontrer que ces derniers sont également inexcusables ? J'ai découpé en sous-points. Alors, A, en jugeant, nous prouvons détenir la connaissance. En jugeant, nous prouvons détenir la connaissance. Donc, regardez Romains 2:1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Pourquoi ? Car en jugeant, arrêtons-nous ici. Pourquoi le fait de juger les autres prouve que nous détenons la connaissance ? Nous avons une fâcheuse tendance à juger, n'est-ce pas ? Or, il est évident que quiconque se positionne en juge sur les autres révèle de cette manière qu'il connaît les standards. C'est aussi simple que cela. Si nous prenons par exemple le juge d'un jeu quelconque, disons le tennis, puisque la Suisse est maintenant détenante en titre de la Coupe Davis, Cocorico en passant, pour arbitrer une rencontre de tennis. Il faut parfaitement connaître les règles du tennis. Pourquoi ? Car vous êtes censé sanctionner les fautes et valider les points. Et ceci est valable d'ailleurs pour tous les jeux et pour tous les sports. Revenons à notre texte. Que veut dire juger ici ? Juger, c'est donc appliquer une règle ou un standard à quelqu'un d'autre que soi-même. Toute personne qui s'assied sur le siège du jugement moral pour condamner les autres pour leurs péchés prouve qu'il connaît les standards. Il prouve qu'il détient les règles. S'il peut juger le péché chez autrui, alors il donne ainsi la preuve qu'il connaît la norme de Dieu. Ce verset démontre, écoutez donc, ce verset démontre ceci, que le jugement exclut l'excuse de l'ignorance. Le jugement exclut l'excuse de l'ignorance. B. En jugeant les autres, nous nous condamnons. Toujours verset 1. Continuons donc Romains 2:1. Paul enchaîne avec la phrase suivante. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais quoi ? Les mêmes choses. De quelles choses s'agit-il ici ? Les mêmes choses que nous voyons listées dans Romains 1, 27 à 31. Regardez Romains 1, 27, on va voir à partir du verset 29. « Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, plein de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. » De ces choses qu'il s'agit. Romains 2,13 dit « Ce ne sont pas ceux, en effet, qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Lorsque nous démontrons que la loi de Dieu peut s'appliquer à quelqu'un d'autre, nous prouvons ainsi que nous connaissons cette loi. Et le fait que nous sachions cette loi nous condamne si nous sommes trouvés coupables des mêmes péchés que nous sanctionnons chez les autres, pour lesquels nous refusons nous-mêmes de nous repentir. Comme poursuit d'ailleurs le texte, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. En passant par cette construction, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses, Paul écarte une autre mauvaise excuse. Il écarte l'excuse de l'innocence. Ceci dit, cela signifie-t-il que nous ne devons jamais juger de rien ? Afin d'éviter tout malentendu, je précise ma pensée avec un sous-point que j'ai intitulé « juger versus évaluer ». Je repose la question ici. En tant que chrétiens, devons-nous nous juger mutuellement? Réponse, oui et non. Alors, prenons d'abord le pourquoi de non. Pourquoi non? Car si notre jugement consiste à juger les intentions et les motivations des uns et des autres, là, la réponse est un non catégorique. Pourquoi? Car, premièrement, Dieu ne nous a pas habilités à le faire. Deuxièmement, Dieu ne nous a pas donné la possibilité de lire dans les cœurs. Raison pour laquelle les Écritures déclarent dans 1 Corinthiens 4, 5, ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Et encore, on voit dans Matthieu 7, 1, nous disons ceci, ne jugez pas, pourquoi? Afin que vous ne soyez pas jugés. Dans notre texte de Romains 2, Paul parle dans ce même esprit. Il est donc question ici d'un type de jugement qui est spécifiquement réservé à Dieu. Voilà pourquoi non. Alors maintenant, regardons pourquoi oui. La réponse est un grand oui si notre jugement est pris dans le sens de l'évaluation. Nous ne devons pas juger, mais nous sommes censés faire une évaluation correcte des choses. Le Seigneur lui-même nous le recommande fermement. Toujours dans Matthieu 7, on le voit plus bas dans les versets 15 à 20, s'adressant à ses disciples, il dit ceci, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. » Puis le texte continue en disant, « Cueille-t-on des raisins sur des épines ou cueille-t-on des figues sur des charbons ?» Réponse, non. Mais regardez la suite au verset 17. « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Et au verset 20, il conclut, « C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. » Donc Jésus lui-même montre par ces versets que non seulement nous sommes habilités à évaluer, mais nous devons le faire. Nous devons le faire avant de prendre toute décision concernant quiconque basée sur les fruits que nous voyons visibles dans leur vie. C'est dans ce même sens que nous devons reprendre avec amour celui ou celle qui se livre au péché. En conclusion de ce grand point, comme il a été démontré, le jugement exclut l'excuse de l'ignorance, le jugement exclut l'excuse de l'innocence. Nous devons évaluer sur la base des fruits visibles et pour toutes ces raisons, tous sont coupables devant Dieu. 2. Tous seront jugés par Dieu. Regardez toujours versets 2 et 3 cette fois-ci. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Voilà la question qui est posée ici. Le verset 2 commence par « nous savons », qui vient d'un mot grec qui veut dire « savoir quelque chose qui est communément connu » ou « qui est connu de tous ». C'est un savoir basé sur des évidences, des faits visibles extérieurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il est fondamentalement évident que le principe de base selon lequel Dieu jugera est selon la vérité. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu ne peut pas mentir. C'est aussi simple que cela. C'est ce que dit Nombre 23, 19. Dieu est vérité, c'est cela même sa nature. Genèse 18, 25 nous dit, « Celui qui juge la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Nous serons jugés selon la vérité. Romains 3, 4 nous dit, « Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. » Dieu est vérité. C'est sa nature même d'être vérité. Et il jugera toute personne selon la vérité. Romains 9, 14 nous dit, « Y a-t-il de l'injustice en Dieu ? À Dieu ne plaise. » Dieu ne fait jamais rien d'injuste. Dieu ne fait jamais de sous-évaluation. Jamais il ne fait d'évaluation incorrecte. Si vous retournez dans l'Ancien Testament, encore et encore et encore, on y trouve référence à la nature véridique de Dieu. Il nous est impossible de connaître les pensées des cœurs de nos semblables. Jérémie 17:9 nous dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant, qui peut le connaître ?» Mais quand on regarde la suite, on voit ceci « Moi l'Éternel ». J'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. La capacité de lire dans les cœurs n'appartient qu'à Dieu seul. Et Dieu connaît les intentions et les motivations de tout homme, quel qu'il soit. Et tous seront jugés selon la vérité des faits les concernant. Regardez aussi Hébreux 4:13. On lit ceci, « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Mais écoutez, « Tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ô homme, qui que nous soyons, ceci devrait nous mettre dans une position vulnérable. Car tout péché que nous n'ayons jamais commis, il est dès lors possible que nous l'ayons commis sur un écran géant en 3D, juste en face même de Dieu. Chaque mauvaise pensée qui nous aurait traversée, chaque gros mot que nous n'ayons jamais prononcé, chaque mauvaise action que nous aurions posée, Dieu le sait. Il le sait. Et que faisons-nous? Nous continuons à les pratiquer. Savez-vous ce que Dieu pense de notre péché? Il le déteste. Il le déteste. Une chose est certaine, c'est que Dieu jugera les uns et les autres selon la vérité. Nous continuons au verset 3. « Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu ?» D'entrée ici, Paul utilise la conjonction de coordination « et » qui lit les versets 2 et 3. Et puis il rajoute « penses-tu » qui vient d'un mot grec qui veut dire « estimes-tu » ou « partages-tu cet avis ?»« Penses-tu pouvoir t'en sortir quand il est évident à Dieu que la même règle devrait s'appliquer à toi parce que tu pratiques ce pourquoi tu condamnes les autres ?» L'intensité de ce verset est très intéressante. Il conclut ainsi « tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. » Boum. Cette dernière petite phrase, « tu n'échapperas pas », nous parle du moraliste, du religieux, du propre juste. Premièrement, il n'échappera pas au jugement de Dieu. Deuxièmement, quand il sera jugé, il ne pourra éviter d'être condamné. Troisièmement, quand il sera condamné, il ne pourra éviter l'application de la sanction capitale, qui est l'enfer éternel. 1 Jean 3:20 est un verset qui appuie bien ce point. 1 Jean 3:20 nous dit, « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Je veux dire que si nous sommes déjà condamnés par notre propre conscience, pouvez-vous imaginer quelle pourrait être la condamnation du Dieu infiniment saint? Savez-vous que Dieu a intégré en nous la conscience pour un but bien précis? La conscience joue dans l'être humain le même rôle qu'à la douleur. La douleur est censée nous arrêter lorsque nous nous blessons ou que nous nous brûlons. De la même manière, la conscience est censée nous arrêter lorsque nous faisons du mal à notre âme. Donc si notre conscience, qui elle fait partie de notre être déchu, si elle nous condamne, combien plus nous condamnera le Dieu qui est infiniment saint et infiniment grand? C'est ce que veut dire ce verset 3. Et penses-tu que toute personne connaissant la loi de Dieu et qui choisit de l'appliquer en condamnant les autres, pensez-vous pouvoir casser par votre attitude cette loi et éviter ainsi vous-même le jugement de Dieu? C'est en fait la question qui est posée ici. Réponse, non, il n'en sera pas ainsi. Certes, il ne nous est pas donné de lire votre cœur. Je ne connais pas vos intentions et encore moins vos motivations réelles. Mais Dieu sait toutes choses et nous serons jugés selon la vérité des faits concernant chacun. Tous sont coupables devant Dieu, nous avons vu. Tous seront jugés par Dieu, nous avons aussi vu. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. C'est que tous peuvent se repentir en Dieu. Verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Arrêtons-nous là. Nous voyons ici la construction « méprises-tu » qui vient d'un mot grec très fort, qui signifie essentiellement une grossière sous-estimation de quelque chose. Mépriser ici est une sous-estimation grossière de l'importance de la bonté de Dieu. C'est un échec pour une véritable évaluation. Cette construction est précédée de la conjonction « ou », faisant de ce verset 4 une conséquence directe du verset 2, ce qui nous donne la construction suivante. Sachant que Dieu jugera selon la vérité toute personne qui, connaissant la loi de Dieu et qui, au lieu de l'appliquer à lui-même, choisit de l'appliquer en condamnant les autres, sous-évalue ou tourne en dérision les richesses de la bonté de Dieu. Ceci est en passant le péché le plus sombre que puisse commettre un homme. Voyez-vous, le péché le plus grave que l'on puisse commettre, ce n'est pas le fait de désobéir à la loi de Dieu, ce n'est pas une violation de la loi de Dieu. Mais ici, nous voyons bien que c'est bel et bien le mépris de la miséricorde de Dieu. Oh, qu'en cette année 2015, le Seigneur me garde, nous garde, de mépriser sa miséricorde. Il est déplorable que la plupart des personnes autour de nous ne considèrent pas Dieu comme étant bon. Vous êtes bien d'accord? On entend plutôt dire, si Dieu existe, il ne permettra pas ceci ou cela. Par exemple, dès qu'une catastrophe se produit, la première réaction, c'est comment Dieu peut-il permettre ceci ou cela? On entend dire aussi, Dieu est injuste. Dieu est injuste parce qu'il a permis que le tsunami tue des millions de personnes en Thaïlande il y a 10 ans. Dieu est injuste parce qu'il a permis qu'il y ait des millions de morts lors de la catastrophe au Japon et qu'il y a des milliers d'irradiés. Dieu est injuste parce qu'il y a eu tout récemment des inondations un peu partout en Europe et que des familles ont dû reconstruire plusieurs fois et qu'il y a eu aussi des morts. Voilà comment est-ce que les gens réagissent. Mais ce qu'on oublie très vite, c'est que toutes ces personnes mortes auraient dû mourir il y a bien longtemps. Pourquoi? Le fait qu'ils ont vécu jusqu'à ces catastrophes n'est qu'une extension de la bonté de Dieu. Car nous savons clairement que le salaire du péché, c'est quoi? Mais répondez, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. On est bien d'accord. C'est ce que dit Romains 6, 23. On entend dire, Dieu est injuste parce que mon père a un cancer, ma mère a une maladie incurable, Dieu est injuste parce que j'ai perdu mon travail, Dieu est injuste parce que je n'ai pas de conjoint et que cela fait longtemps que je vis mon célibat, Dieu est injuste parce que j'ai perdu un enfant ou que je n'ai pas d'enfant, et pire, Dieu est injuste parce que j'ai travaillé dur durant toute l'année 2014 et à la fin de l'année je n'ai pas eu de bonus, les amis. Est-ce tout ce que nous trouvons à dire en réponse à la bonté de Dieu? L'homme est coupable. L'homme est coupable de rejeter la bonté de Dieu, coupable de mépriser, d'abuser de la miséricorde de Dieu, coupable d'ignorer la grâce de Dieu, coupable de repousser l'amour de Dieu, coupable de se moquer de la douceur de Dieu. Cette attitude n'est pas nouvelle. Allez avec moi dans Luc chapitre 13, qui illustre bien ce point. Luc chapitre 13. Nous lisons ceci au verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. On s'arrête là un instant. Ici, nous voyons un groupe de personnes, en fait, qui viennent raconter à Jésus comment Pilate avait mêlé le sang de quelques Galiléens avec celui de leur sacrifice. Et ceci arrive vraiment soudainement. Pendant qu'ils adorent leur Dieu, les amis. Tous ont été égorgés sur l'autel, mais quel drame! Et les gens se pressent autour de Jésus et ils sont indignés de cette cruauté de Pilate. Et en fait, ils interpellent Jésus à propos de la justice de Dieu. Ils disent, qu'en est-il de ces Galiléens? Que dire? Comment se fait-il que Pilate, un païen, se permette de profaner le temple de Dieu dans un moment comme celui-là? Il est évident que ce groupe de personnes réagit exactement comme le monde aujourd'hui. Comment Dieu peut-il permettre cela? En d'autres mots, ce qu'ils disent, c'est ceci. Ces Galiléens étaient-ils des super méchants? Étaient-ils des super pécheurs? Étaient-ils plus vils que tout homme dans le monde? Eux qui étaient des religieux, Jésus, pourquoi ont-ils souffert de cette façon? Mais où était Dieu quand cela est arrivé? C'est la question qu'ils posent à Jésus. Mais regardez la réponse, verset 2. Jésus leur répond. Il dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Écoutez, votre réponse à cette situation, c'est de crier à l'injustice. Est-ce tout ce que vous trouvez à dire? Regardez verset 3. Non, je vous l'ai dit, ils ne sont pas pires que vous. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ils sont des exemples. Ils n'étaient pas pires que quiconque d'autre. Ils ont été des exemples choisis par Dieu comme illustration. Voyez-vous où il va en venir? Ces gens ne sont pas pires que les autres. Ce sont des illustrations que tous devraient subir tôt ou tard si l'on persiste à mépriser la miséricorde de Dieu. Nous sommes tellement habitués à la miséricorde, tellement habitués à la grâce, que nous pensons même que la justice est injustice. L'histoire montre combien Dieu a manifesté son amour envers la nation d'Israël. Comment il a mené Israël avec tendresse, avec bienveillance, dans sa bonté et dans sa miséricorde. Mais comment ont-ils répondu à cela? Ils n'ont fait que s'éloigner de lui. Ils n'ont fait que de rejeter la bonté et la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, la réponse de l'humanité envers l'élan d'amour et de bonté de Dieu n'est que du mépris et du rejet. Mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce verset met en évidence trois attributs de Dieu qui devraient nous pousser à la repentance. Et je les traite un après l'autre. Premièrement, Dieu est riche en bonté. Regardez au verset 4. Romains 2, 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Le mot bonté dans ce verset vient d'un mot grec qui véhicule l'idée de la douceur véritable. Nous le retrouvons utilisé dans ce sens dans Galates 5, 22, dans la liste des fruits de l'esprit. Cette bonté parle des bienfaits de Dieu. Ses bienfaits envers les humains que nous sommes. Juifs ou non-juifs avons failli dans notre évaluation. Nous n'avons pas vu la vraie valeur des richesses de la bonté de Dieu. Mais Dieu est bon car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il donne à tous la vue pour distinguer la beauté des choses, la beauté de la nature, d'apprécier la beauté des fleurs. Ce sera bientôt d'ailleurs la saison des tulipes. Oui, Dieu est bon dans les périodes hivernales, car il nous donne la possibilité d'être chaud. Il donne à tous de l'eau lorsque nous avons soif. Il pourvoit nos besoins. Il nous donne du travail et de la nourriture pour combler nos estomacs quand nous sommes affamés. Il nous donne aussi un ciel bleu et du soleil qui nous réchauffe. Dieu est bon car il donne à tous aussi de la verdure, la neige, des belles montagnes, nous pouvons aller skier. Dans sa bonté, il nous donne d'être entourés des gens qui nous aiment et il est celui qui nous habilite à aimer. Le psaume 52:1 nous dit « La bonté de Dieu subsiste à toujours ». Psaume 119:68 nous dit « Tu es bon et bienfaisant ». Psaume 33:5 dit « La bonté de l'Éternel remplit la terre ». Le psaume 145:9 dit « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres ». Et le psaume 107 termine en disant « Oh, que les hommes louent l'Éternel pour sa bonté ». Je pourrais prendre plusieurs jours pour vous parler de la bonté de Dieu, tant les exemples sont nombreux, non seulement dans la Bible, mais dans ma vie personnelle. Dieu est non seulement bon, mais il est aussi patient, objet de mon prochain point. Verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience ?» Le mot « patience » dans l'original vient d'un mot grec qui véhicule l'idée d'une trêve. C'est le mot utilisé pour exprimer la fin d'une hostilité. Dans ce texte, il exprime de la retenue à la source du jugement. Donc Dieu répand la bénédiction et il retient son jugement. Il retient sa sanction. Il est patient, il s'abstient. C'est exactement ce qu'il dit ici en substance. « Je serai bon envers vous, je ferai une trêve dans mon hostilité, je vais être patient et gentil avec vous et je vais retenir mon jugement. » La preuve de cette patience, c'est que nous sommes tous encore vivants et les pécheurs autour de nous sont encore vivants. On pourrait se demander pourquoi ne nous achève-t-il pas lorsque nous péchons comme il le fit avec Ananias et Saphira? Pourquoi n'ouvre-t-il pas la terre pour nous engloutir comme il le fit avec Dathan et Abiram? Et que dire des chrétiens apostates? Que dire de tous les libéraux? Qu'en est-il de leur tolérance pour toute forme de mal introduite dans l'Église? Comment peut-il laisser passer de telles choses et pourquoi ne laisse-t-il pas sa colère descendre des cieux pour les consumer? Et la seule réponse, les amis, que nous trouvons à ceci, c'est l'expression même de la patience de Dieu. Puis notre verset continue avec sa longanimité, objet de mon prochain sous-point. Dieu a de la longanimité. Toujours verset 4, nous lisons « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité ?» Le mot longanimité ici vient d'un mot grec qui signifie aussi de la patience dans le sens d'une longue attente. C'est quelqu'un qui a le pouvoir et le droit de se venger, de juger, sanctionner instantanément, mais qui ne l'utilise pas. Ceci se réfère à la durée entre sa patience et l'application de son jugement. Ainsi, Dieu est bon pendant une longue période de temps, et Dieu est patient pendant une autre longue période de temps, refusant de donner libre cours à son jugement. Le terme hébreu utilisé dans Néhémie 9 dirait « Il est lent à la colère et il est riche en bonté ». Et c'est en cela qu'est la richesse, en fait. Il n'est pas uniquement question de la bonté, de la patience et de la longue attente. En plus de tout ceci, il est question de la quintessence de la richesse de ces choses. Il n'est pas question d'une chose peu profonde, les amis, mais on parle ici du maximum, du maximum. Les anciens théologiens l'ont qualifié de grâce commune, aussi connue sous le terme de la théologie de la providence. En d'autres mots, Dieu est juste et bon et il déverse sa bonté sans limite et il retient son jugement. Il le fait durant une longue période. Il a aussi prouvé cette patience dans le passé. Souvenez-vous, à l'époque de Noé. Il a démontré sa bonté et sa patience envers le monde païen. Comment? Il a attendu 120 années, 120 années, plus d'un siècle, avant le déluge, dans l'espérance que ces derniers reviendraient à lui. Il a espéré plus d'un siècle. Voilà combien il était patient envers les nations païennes pendant le temps de leur ignorance. La bonté de Dieu a pour but de motiver les hommes enclins au mal depuis bien longtemps à aspirer à la grâce de Dieu. Si vous et moi avions vraiment réalisé ce que nous méritions vraiment, alors nous serons reconnaissants à Dieu pour chaque souffle supplémentaire qu'il nous accorde. Merci Seigneur de me préserver la vie. Merci de me conserver la vie. Voilà de quoi il est question ici. 2 Pierre 3:9 nous dit ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut faire grâce à tout homme qui choisit de se tourner vers lui pour obtenir grâce. Cela est le but même recherché. Nous avons donc vu à ce stade que tous sont coupables devant Dieu, tous seront jugés par Dieu. Tous peuvent se repentir en Dieu. Dernier point, tous ont un choix à faire vis-à-vis de Dieu. Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. C'est la bonté de Dieu dans laquelle nous vivons, qui est censé nous conduire à la repentance. Ne courons pas le risque de nous conforter dans le péché avec des cœurs impénitents. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur dans Zacharie 1:3. L'homme a été créé libre de ses choix, libre de se soumettre à Dieu ou de rejeter Dieu, libre d'obéir ou de mépriser la bonté de Dieu, de piétiner la patience de Dieu, de mépriser la miséricorde de Dieu. Mais fort de notre choix, nous aurons la récompense qui va avec, soit la colère de Dieu, objet de mon prochain sous-point, recevoir la colère de Dieu. Paul continue toujours dans Romains 2 en disant au verset 5, « Mais par ton endurcissement ». Endurcissement vient ici du mot grec « sclérotes ». C'est le mot duquel découle la maladie connue sous le nom de la sclérose en plaques, la sclérose artérielle ou la sclérose du durcissement du foie ou de l'artère. Mes amis, le durcissement des artères peut nous conduire dans la tombe, mais le durcissement du cœur nous mènera à l'enfer. Il est certain. Puis Paul continue au verset 5 en disant « Par ton cœur impénitent », c'est-à-dire un cœur non converti, un cœur non changé, non repentant. Ézéchiel 36, 26 en parle comme étant des cœurs de pierre. Nous voyons Jésus affligé de l'endurcissement des cœurs dans Marc 3, 5. La conséquence d'avoir un tel cœur, c'est l'assurance de l'ascension imminente. Avoir un tel cœur nous conduit à amasser la colère de Dieu péché après péché, péché après péché. Je vous lis Jérémie 8, 6. Il dit ceci. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Et ceci est fort déplorable, les amis. Paul continue en disant toujours verset 5, « Vous vous amassez un trésor de colère pour le jour de la colère, c'est-à-dire le jour du jugement eschatologique. » Question d'ailleurs dans Sophonie 1.15, qui le décrit comme un jour de fureur, un jour d'angoisse et de détresse. Regardez Romains 2.6. Paul dit ceci au verset 6. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Et au verset 8, il dit l'irritation, la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et au verset 9, il dit « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. » Et je termine avec ceci. Mais, il y a une alternative pour échapper à la colère de Dieu. Nous avons aussi la possibilité de recevoir le salut de Dieu, mon prochain sous-point. Pour ce faire, rien de compliqué. Nous l'avons vu, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur. Se repentir, c'est revenir sur ses pas. C'est de réévaluer la bonté de Dieu à sa juste valeur. C'est de considérer la grâce de Dieu. C'est de remarquer la miséricorde de Dieu, la patience et la longue attente de Dieu. C'est de fuir le péché que nous affectionnons jusqu'ici et recevoir Christ, recevoir le salut de Dieu. Je vous lis Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, parlant de l'eau de la parole, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois, dit le Seigneur. Regardez encore Romains 2, le verset 8, nous disons ceci. Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Au verset 10, il dit « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. » Voilà le message pour cette année 2015. Quel choix voulons-nous faire? Recevoir la colère de Dieu ou recevoir le salut de Dieu? Je conclue avec ceci. Comme nous l'avons vu, tous sont coupables devant Dieu. Aucune excuse ne sera valable. Nul ne pourra évoquer l'excuse de l'ignorance, comme nul ne pourra évoquer l'excuse de l'innocence. Et par conséquent, tous seront jugés par Dieu, et Dieu jugera selon la vérité des faits concernant chacun. Nous avons aussi vu que tous peuvent se repentir en Dieu, car Dieu est riche en bonté, car Dieu est patient, car Dieu a de la longanimité. Il est fort dommageable de mépriser la bonté de Dieu, de piétiner la miséricorde de Dieu et de tourner en dérision la longue attente de Dieu. Tous ont un choix à faire vis-à-vis de Dieu, car Dieu nous a créés libres de choisir. Quel choix allons-nous faire? Quel choix voulons-nous faire? Nous pouvons éviter de recevoir la colère de Dieu. Deutéronome 39 nous dit ceci, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Nous pouvons choisir de venir à Christ, de recevoir le salut de Dieu. Allez avec moi dans Luc et je vais terminer avec ceci. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc 18, versets 9 à 14. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus conclut au verset 14, il dit, « Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Je vous invite à prier. Père céleste, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Oui, ta parole secoue les fondements ce matin. Donne-nous de faire des choix qui nous mèneront à recevoir ton salut et non pas ta colère. 1 Jean 9 dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aide-nous en cette nouvelle année, Seigneur, d'être des hommes et des femmes qui reconnaissent leurs fautes, qui se repentent, qui les déposent, qui s'en détournent. Et Père, je prie que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous tout au long de cette nouvelle année. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.